Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'À l'ombre du festival, notre podcast d'entretien cannois chez Criticat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Massa. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Donc Guillaume, tu viens présenter ton nouveau film à la CID cette année, un long métrage documentaire, La Détention. Donc La Détention, pour expliquer rapidement, donc c'est un long métrage documentaire assez ample hein, puisqu'il dépasse assez nettement les 2 heures qui prend pour sujet l'ENAP, l'École Nationale d'Administration Pénitentiaire, et donc la forme que prend le film, c'est la forme, disons, de longs blocs de durée qui suivent les cours que suivent les futurs administrateurs pénitentiaires, c'est-à-dire en gros les futurs surveillants pénitentiaires, les futurs matons comme on dit. Donc voilà, moi la première question, c'est que le titre donc c'est La Détention, mais paradoxalement tu ne filmes pas la détention elle-même, tu filmes l'apprentissage on va dire à la détention. Donc d'où t'es venu en tout cas cette idée, cette envie de filmer la détention sans la filmer ici avec ton film?
Tout comme j'avais filmé en prison mon premier film qui s'appelait La Liberté, que je l'avais appelé La Liberté. là, effectivement, c'est un film qui se passe intégralement dans l'école, où on va de cours en cours. Tout le long du film, il n'y a pas vraiment de pas de côté. On est vraiment de salle de classe en salle de classe. Et effectivement, ce qui remplit le hors-champ, c'est la prison. C'est la prison qui nous apparaît sans jamais qu'on y mette les pieds. Ça m'est apparu parce que quand j'ai fait mon premier film, La Liberté, que j'ai tourné dans une prison en Corse, une prison un peu particulière, les surveillants, le premier jour de tournage, ont décidé de ne pas apparaître dans le film. Ce qui m'a mis dans l'embarras parce que tout le projet était de les filmer. et donc j'ai dû improviser et faire un film sur les détenus. Et c'est La Liberté contient toute cette question de l'improvisation, contient tout ce moment où je réoriente le film. Néanmoins, ça n'avait pas eu lieu, quoi, cette rencontre avec les surveillants, qui me disait pendant le tournage que mais vous comprenez, c'est pas possible, nous on est méfiants, c'est notre métier d'être méfiants, et c'est normal. Mais si bien que je les avais pas rencontrés, je les avais pas compris, j'avais quand même des grandes questions qui se posaient à moi à chaque fois que je les voyais, en me disant mais comment on fait ce métier, pourquoi on fait ce métier, qu'est-ce que c'est que ce curieux métier, quoi. Et en même temps tout ça était resté un petit peu lettre morte, et on m'a invité à montrer La Liberté, c'était en 2019 je pense, au Montreur d'Images, un cinéma à Agen, et à Agen il y a cette école, et donc c'est le service culture de l'ENAP qui m'a fait cette proposition. Donc je l'ai montré à des surveillants, je l'ai montré à des formateurs, et puis à des spectateurs qui étaient là, et on m'a invité à faire le tour de l'école. Et quand j'ai vu l'école, soudain, je me suis rendu compte que j'avais oublié de me poser la question de où est-ce qu'on fabriquait la prison, où est-ce qu'on fabriquait les surveillants, comment est-ce que ça marchait tout ça. Je ne m'étais jamais dit qu'on apprenait à enfermer des gens, je ne m'étais jamais dit qu'on apprenait des choses très béaba, quoi. On apprend à fermer une porte, par exemple, ce qui me paraît très étonnant. Enfin, nous tous, on sait ouvrir, fermer une porte, on fait ça tous les jours. Eux, ils le font beaucoup plus que nous, et pourtant, ils doivent l'apprendre. Et ça, je ne l'avais pas en tête. Et puis, j'ai vu aussi qu'il y avait des lieux de simulation, des fausses coursives, des fausses cellules, qu'il y avait des moments de pratique sans aller sur le terrain. Même de l'intervention d'un comédien, il y avait quelque chose aussi de l'ordre du petit plateau de cinéma qui se mettait en place, et ça me passionnait beaucoup. Et donc à partir de là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, et j'ai compris aussi que soudain ces personnes allaient accepter d'être filmées, que tout le devoir de réserve, toutes les impossibilités habituelles que rencontrent les surveillants, c'était trop tôt pour qu'ils se disent tout ça. Ils sont en train d'apprendre le métier. Et ils sont, comme toi et moi, la prison, on n'y connaît rien, puisqu'on n'y travaille pas, puisqu'on n'y a pas mis les pieds en général, et qu'ils sont à l'égal du spectateur. Quand ils arrivent, ils ne savent rien, sinon ils ont regardé des films, ils ont regardé des séries, ils ont 2-3 idées, ils en ont un peu entendu parler dans la presse, mais on n'a que des clichés en tête quand on arrive. Et soudain, on leur dit ce que c'est que la réalité de la prison. On leur apprend des choses très, très, très concrètes. Ça les surprend, ça les déroute. Nous, ça nous... c'est bien parce qu'on est à leur égal. On est tout autant surpris qu'eux au départ. Et puis, soudain, ils partent en stage. Ils vont partir deux fois en stage. Et eux, ils vont sur le terrain. Eux, ils partent dans ce hors-champ où nous, on ne va pas. Mais ils nous le ramènent. Ils nous le ramènent et soudain, on a un écart. Il y a un écart qui se creuse entre eux et nous parce que eux, soudain, ont cette expertise que nous, on n'a pas. Et c'est eux qui racontent le terrain. Donc, toute la question du hors-champ que tu posais, bah, c'est suscité par les discours, c'est suscité par l'absence, par la présence évanescente du détenu qu'on incarne régulièrement, dont on parle, qu'on imite. Voilà. Et ça, je me suis dit que c'était cinématographique.
Parce que effectivement, donc, le film prend la forme de longues séquences, cours par cours, vraiment assez méticuleuse, j'ai envie de dire. On suit vraiment pas à pas, effectivement, les gestes, mais aussi il y a quelque chose d'assez didactique aussi de la part des professeurs qui expliquent vraiment qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc. etc. Et effectivement, le film est toujours scindé par des cuts au noir, sauf à deux moments donc, où c'est plutôt des fondus au noir, ce qui peut susciter... une forme d'étonnement, et on comprend effectivement que c'est à ces moments-là qu'il y a les deux stages qu'on ne verra pas en prison. Et ce qui est assez beau, moi je trouve, dans le film, et assez troublant, c'est que petit à petit, tout au long du film, on va suivre aussi des gens, un groupe, et on va presque apprendre à les connaître. Enfin, il y a un côté film de groupe un petit peu étonnant dans le film. On reconnaît petit à petit les personnages et on reconnaît aussi certaines réactions, enfin qu'il y a des réactions complètement différentes par rapport au processus qu'ils sont en train de vivre. Et on reconnaît notamment, à partir de ces deux grandes coupures, qu'il y a parfois des personnages même qui ne sont plus là, qui étaient là au début, qui ne sont plus là à la fin. On reconnaît aussi à certaines de leurs paroles qu'ils ont pu mal vivre les conditions de travail, pas forcément le contact avec les détenus d'ailleurs, mais les conditions avec les collègues, etc. Et donc moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce que aussi c'est cet aspect-là un peu portraitiste aussi de groupe, de caractère, etc. C'était quelque chose que vous alliez chercher a priori ou sur lequel vous êtes tombé, entre guillemets?
Ben, c'était un peu compliqué... Il y avait un paradoxe dans notre manière de tourner, parce qu'on était sur place avec eux, on vivait sur le campus, hein, parce que c'est un campus qui est hors de la ville et il est très compliqué d'aller ailleurs, c'est vraiment une bulle, et on trouvait ça intéressant de rester dans cette bulle. Et donc on vivait avec eux tous les jours, on dormait aux mêmes endroits qu'eux, on était avec eux le soir, on pouvait aller sortir boire des coups, enfin voilà, on a vécu à leur côté. Et pourtant, le film n'est pas fait de ça du tout. Il était convenu entre nous qu'on coupait la caméra quand on n'était pas en cours, qu'on n'allait pas filmer les à côté, qu'on n'allait pas... Alors que, bon, au fond, on avait accès à tout un hors-champ, encore un autre, le hors-champ du quotidien du campus, quoi. Mais ce n'était pas ce qui nous intéressait. Et il ne nous intéressait pas non plus d'aller travailler sur des questions sociologiques, de... qui sont-ils, c'est quoi la typologie des gens qui font ce métier, d'où viennent-ils, où vont-ils aller, qui est leur famille, enfin voilà. On ne voulait pas justement travailler cet aspect-là qui serait pour le coup un aspect de personnage, si je peux aller un peu à l'encontre du mot que tu emploies, parce que c'est un mot que je ne veux plus employer en documentaire, le mot de personnage, parce que j'ai compris qu'il était mal adapté au documentaire. Julien Meunier, avec qui j'ai réalisé plusieurs films, dit que je trouve que la formule est bonne. Un personnage, si vous le tuez, c'est une péripétie, et une personne que vous filmez, si vous la tuez, vous allez en prison. Et c'est exactement ça. En fait, les personnes qu'on filme ne nous appartiennent pas. Leur passé ne nous appartient pas, leur avenir ne nous appartient pas. Ce qu'ils vont devenir après le film, ben, ce ne sera pas de notre fait. On aura une conséquence, il y aura des conséquences du fait de les avoir affichés, de les avoir montrés, mais pour autant, leur vie leur appartient et ils ne nous appartiennent pas du tout. Néanmoins, évidemment, il y a toujours des figures, il y a toujours des gens auxquels on s'attache. Il y a des gens qui sont plus cinégéniques que d'autres pour telle ou telle raison. Et c'était un peu aussi l'enjeu ensuite au montage de faire émerger des figures sans pour autant rentrer dans de la psychologie ou dans de la sociologie. C'était pas si simple. Et en fait, on a fini par comprendre que ça allait simplement passer par l'être là, quoi, des gens, vraiment par ce qui circule sur leur visage, Il y a des gens qui parlent beaucoup et qui du coup prennent plutôt bien la lumière, mais il y a aussi des gens qu'on voit souvent dans le film en plan d'écoute qui ne disent rien, mais où on sent bien qu'ils n'en pensent pas moins, on sent bien que leur visage se transforme au fur et à mesure du film, que quelque chose de plus dur va se dessiner ou une plus grande détresse, tout est possible. On a fini par comprendre que c'était comme ça que ça marchait, mais c'était par ailleurs un peu un piège parce que dès qu'on s'appesantissait un peu trop sur quelqu'un au montage, eh ben, dès qu'on faisait ça, ça déséquilibrait la narration. Soudain, on avait envie d'en savoir plus. Soudain, on avait envie justement de développer, de déployer un personnage avec sa psychologie, etc. Y a une personne dans le film qui, à un moment, raconte que ça s'est vraiment très mal passé pour elle pendant le stage et on la revoit pas dans le montage ensuite. Il me semble très clair parce que tout le monde, toutes les personnes qui me posent la question ont déjà la réponse, mais on me pose souvent la question. Mais alors, elle a quitté le stage? Bah oui, si tu me le demandes et que tu la vois plus dans le montage, c'est bien parce que c'est clair. Mais malgré tout, on a un désir comme ça d'identification et de suivi de proches, etc. Et c'est pas le propos du film. Mais si on essayait de souligner un peu plus tel ou tel événement qui est arrivé à quelqu'un, bah, ça déséquilibrerait tout le film parce que soudain, il aurait fallu... Ben justement se mettre à en dire plus, se mettre à passer plus de temps avec cette personne qui a quitté la formation, et alors pourquoi, et comment ça s'est passé, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est compliqué. Non, on avait juste l'événement de, en fait le stage c'était trop dur, je m'en suis pris plein la gueule, et on la revoit plus, et c'est bon, on comprend. Et comme il ne s'agissait pas de singulariser à ce point-là, il s'agissait juste de parler de ce que la prison fait aux gens, il y a tout le concept du choc carcéral qui est développé par les formateurs et où on comprend que le choc carcéral qui est normalement ce qui est attendu pour les détenus est aussi ce qui arrive aux surveillants. Donc voilà, il ne s'agissait pas de singulariser mais de parler de ça.
Oui, c'est ça qui est assez beau effectivement dans le film, c'est que ça passe pas du tout par effectivement du discours ou de ça passe vraiment par de la présence effectivement de ces gens et un caractère qui se donne à voir comme ça d'un coup ou pas, enfin et les choses qui sont dites ou les choses qu'on regarde sur eux voilà apparaissent comme ça mais ne sont pas expliquées effectivement. Bah, cette disparition par exemple c'est l'exemple frappant que voilà, c'est juste une disparition et donc à partir de là on comprend, voilà. Mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, au fur et à mesure que les cours progressent, on sent aussi bien que certaines présences, du coup, réagissent différemment un petit peu à ce qu'on leur apprend. Et on se sent bien aussi, c'est très étonnant, comme vous disiez tout à l'heure, qu'il y a des choses très très concrètes qui sont apprises, fermer des portes, ça se répète, etc. Aussi des mots qu'on doit dire le matin pour savoir s'ils sont réveillés, s'ils ne sont pas réveillés, etc. C'est très réglé, etc. Il y a aussi des scènes assez intéressantes de défense, d'autodéfense. Et là, on entre quasiment dans des choses aussi un petit peu plus floues à certains moments, surtout quand on progresse, à mesure qu'on progresse dans le film, le moniteur va plusieurs fois interroger ses élèves. Alors là, selon vous, est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai pas le droit d'être là, de faire tel geste? Est-ce que je suis à la bonne présence? Est-ce que j'ai bien respecté, etc., etc. Et là, étonnamment, on est dans un espace un peu flou où d'un coup, le moniteur dit bah, « pour moi, j'ai le droit ». Et il a respecté les gestes, etc. Mais ça reste un petit peu... Il y a un espace où... les gens peuvent réagir différemment, quoi. Il y a vraiment cet espace-là. Et ce que vous montrez, c'est qu'effectivement, enfin, nous on a trouvé au bout d'un moment des caractères vraiment vont se faire et vont être beaucoup plus enclins à passer le pas, en tout cas, à accepter ce conditionnement, voilà.
Ouais, c'est ça qui est assez fascinant dans cette formation. C'est ça qui m'a complètement bluffé quand j'ai fait les repérages. J'ai suivi une première fois la formation sans caméra pour voir comment se passaient les cours. Et ça m'a fasciné pendant les repérages de constater à quel point l'école faisait bien son travail en ce que elle ne leur cache pas, elle ne leur dissimule pas la difficulté de la prison, son dysfonctionnement, peut-être même son dysfonctionnement ontologique, quoi. à quel point, en fait, la prison est un système qui ne peut être que dysfonctionnel. Ça semble presque une fatalité dans la manière dont ils l'abordent. Et pourtant, ils sont en train de leur apprendre à faire ce métier-là. Et ils y croient, par ailleurs, ces formateurs-là. Vraiment, ils viennent de la coursive, c'est leur métier. Ils y croient profondément. Pour eux, c'est les fondements de la République, etc. Mais ils connaissent tellement bien les lieux qu'ils ne peuvent pas faire autrement que dire la vérité aux élèves. Et la vérité, c'est aussi comment on s'accommode de ce quotidien. Et s'accommoder de ce quotidien, c'est retort, en fait. C'est toujours aller tirer un peu dans les coins, trouver les interstices par lesquels passer pour que ça rentre dans le droit quand même, qu'on soit dans son cadre. C'est ce qu'il dit beaucoup ce formateur de sport. Là, c'est est-ce que là, je suis dans mon cadre ? Là, je suis dans mon cadre. Ce qui est par ailleurs une super question de cinéma. Est-ce qu'à ce moment-là, je suis dans mon cadre ? Oui, c'est la grande question. Et donc, si jamais je sors de mon cadre... est-ce que c'est rattrapable comme d'ailleurs un cadreur, est-ce qu'il peut reprendre son plan, est-ce qu'on peut rattraper son plan quand on a un peu foiré un cadre? Ça arrive souvent dans ce film que je corrige un peu mon cadre à la volée. Eux, c'est leur quotidien, cette question de comment on louvoie autour. Il y a une formatrice à un moment qui trace un trait sur un tableau, une ligne continue, et qui fait un espèce de d'autres traits en dents de scie par-dessus, en disant la ligne continue, c'est le droit, et cette autre ligne en dents de scie, c'est les écarts qu'on fait par rapport à la règle, par rapport à ce qu'on doit suivre. Et des fois, on est un peu obligé de louvoyer, de sortir du cadre, parce que sinon, c'est intenable. Sinon, cette cocotte minute, elle va exploser. Et ça, c'est quand même une reconnaissance que ça ne tient pas, en fait. Que le côté ultra réglementaire de la prison et l'espèce d'idéal carcéral qu'ils sont obligés de dessiner eux, puisqu'ils sont à leur place de comment les choses fonctionnent. Mais pour que les choses fonctionnent, il faut déjà dire qu'il va falloir louvoyer. Et donc effectivement, ce formateur, lorsqu'il explique ce que c'est que la légitime défense, ça devient un cours de droit. On est sur le tatami, c'est censé être un cours de sport, mais ça devient vraiment un cours de droit. Et c'est si j'ai touché quelqu'un à la tête, quel est l'écrit qui va permettre d'expliquer que c'était pas volontaire. Je voulais le toucher au plexus, c'est clair, je peux l'écrire, mais si j'ai touché cette personne à la tête, il faut que je fasse un écrit qui dit que je visais le plexus. C'est tout de même très 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 retors. On comprend bien que ça sert dans le réel, peut-être à un moment où effectivement on a raté le plexus, mais on peut se poser des questions.
Il y a quelque chose que vous disiez tout à l'heure qui était aussi intéressant et au sujet aussi de ce cadre, enfin de ce respect du cadre. Vous parliez, pour mélanger un petit peu de choses, que vous avez trouvé la prison, comme, enfin cette école plutôt, comme étant aussi peut-être ressemblant à un petit plateau de cinéma.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que ce conditionnement, ça passe par en fait des répétitions au sens presque théâtral, quoi, au sens presque de cinéma, où effectivement, pour se conditionner, pour se mettre en état, on va parfois en passer par une théâtralisation de ce qu'on fait. Et je pense notamment, pour moi, des plus belles scènes du film, où il y a une espèce de scène de, comme on dit, de re-enactment, comme on peut dire un peu en anglais, où une surveillante pénitentiaire va jouer très clairement avec un comédien qui joue un prisonnier avec des pensées suicidaires, va jouer le moment où elle trouve ce prisonnier, qu'est-ce qu'elle doit faire quand elle trouve ce prisonnier avec ces pensées-là, quelles doivent être ses réactions, etc. Et donc en fait ce conditionnement passe vraiment par une espèce de petit cinéma par moment que vous filmez comme tel, quoi.
Oui, c'est vrai, et c'était une des choses très très étonnantes. Il y en a d'autres, des moments de simulation. Il y en a d'autres dans le film, mais il y en a d'autres dans la formation. C'est ce qui est beaucoup mis en avant par l'école elle-même, qui fait beaucoup de promotion pour recruter. Et c'est ce qui, au premier chef, moi, m'avait attiré. Mais une fois que je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte que tous ces moments de simulation très spectaculaires étaient portion congrue, en fait, de cette formation. Que c'était ce qui était mis en avant parce que c'était ce qui impressionnait, ce qui pouvait donner envie, alors je vais le dire un peu brutalement, mais presque d'y aller comme à un parc d'attractions, quoi. Il y a des simulations de cellules en feu, de choses comme ça, de choses beaucoup plus spectaculaires que j'ai filmées, mais qu'on a mis de côté parce que c'est pas du tout le quotidien de l'école, d'une part. C'est des moments très particuliers où tout le monde, d'ailleurs, ne va pas faire un moment de simulation. La simulation dont tu parles, la simulation suicide, là, bah, il y a une personne, enfin, il y a deux élèves qui jouent dedans et les autres regardent et personne d'autre ne passera. Donc, c'est pas du tout au quotidien, on fait des petites scénettes. Le quotidien est plus pris dans. Est beaucoup plus discursif en fait, est plus pris dans des cours magistraux, dans des amphithéâtres, dans des cours en petites salles où on parle des règles du quotidien, des règles anti-spectaculaires en fait. Et ça a été un choix curieux à faire pour nous parce que on se disait que c'était étrange dans un film de vouloir retirer tout ce qui était immédiatement spectaculaire et qui rendrait bien à l'écran. Sauf qu'en fait, ça nous renseignait en rien sur la prison. Ça nous renseignait beaucoup sur la pédagogie. Ça nous parlait d'école, ça nous parlait. Mais c'était pas de ça dont on voulait parler. Nous, on voulait vraiment réussir à être sur l'essence même de la prison, c'est-à-dire le petit quotidien, les petites choses, les choses qui arrivent tout le temps. Alors qu'un feu de cellule, ça n'arrive pas tout le temps. Voilà, donc on était sur ces choses-là. Mais pour autant, la question théâtrale contamine quand même tout le temps. Parce que même en amphithéâtre, lors d'un cours magistral, lorsqu'il y a un exemple manquant pour qu'on comprenne bien ce qui vient d'être dit théoriquement, eh ben, la prof va soudain mimer le détenu et devenir le détenu sous nos yeux parce qu'il y a besoin de ça. Il y a besoin de ça. Mais c'est toujours pour mimer l'incident. C'est jamais évidemment possible de mimer le très peu de choses, le rien du tout, le quotidien, juste la tristesse et la déprime d'être là, enfermé et privé de liberté. Voilà.
Et d'ailleurs, on a l'impression, en finissant le film, que bizarrement, effectivement, ce film qui est fait de gestes très quotidiens, très concrets, beaucoup de comme on disait, de didactisme, etc., va vers, à la fin, une dernière scène assez théâtrale, justement, mais justement pour en montrer la facticité. En plus, il se passe quelque chose qui n'était pas attendu, puisque, en gros, il s'agit d'une cérémonie de diplôme. Et. La météo ne sera pas au rendez-vous, on va dire. Et donc, ce côté idyllique, cet idéal républicain, entre guillemets, en tout cas de ce que la France voudrait renvoyer, de ce que l'institution voudrait renvoyer comme image, d'un coup, va prendre un tour beaucoup plus lugubre. Et en plus, vous filmez, c'est encore une fois une répétition, et pas seulement la vraie cérémonie. Donc, on dirait que, voilà, encore une fois, il y a toujours cet écart entre. Jusqu'à dans cette espèce de climax du film, entre l'image qu'on voudrait renvoyer et le concret auquel on n'accédera jamais vraiment et qui est presque immontrable, quoi.
C'est ça, et c'est là où la fiction soit échoue, soit l'emporte sur le documentaire, j'en sais rien, mais en tout cas, clairement, la fiction et le documentaire sont deux choses distinctes. Les petites. Je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, je sais qu'il y a plein de gens qui pensent tout à fait le contraire, et même des gens que j'admire, mais tout de même, je trouve que ça nous dit ça, quoi, que la fiction et le documentaire, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que la théorie serait de la fiction. Et le documentaire serait l'accident qui empêche la théorie de se déployer absolument. La théorie vient toujours se heurter. C'est un peu comme une expérience scientifique. Si on est dans une éprouvette et qu'on est dans un milieu qu'on a maîtrisé à 100%, alors l'expérience peut réussir. Mais si on ne maîtrise pas cet environnement à 100% et qu'on est hors de l'éprouvette, bah soudain il y a une poussière qui va se mêler et qui va faire rater l'expérience, quoi. Et c'est un peu ça, je crois, que ça nous raconte sans arrêt. C'est que ce principe théorique qu'est la privation de liberté est inapplicable au quotidien parce que une fois qu'on a privé de liberté, qu'est-ce qui reste à faire? Et rien ne semble faisable à partir de ce concept-là. Et c'est ce que dit un peu Foucault d'ailleurs quand il explique que la prison porte la réforme en elle depuis le début. Depuis le début, on dit que la prison va se réformer, qu'elle va s'améliorer, que certes elle est dysfonctionnelle, mais on va toujours trouver le moyen de l'améliorer. Vous inquiétez pas, à un moment ça va aller. Et que oui, c'est ça, c'est que la prison est ontologiquement réformiste, et c'est ce qui l'empêche d'être, et en même temps, c'est ce qui lui permet de perdurer. C'est ce qui lui permet de toujours promettre qu'elle va s'améliorer. Et je crois que la question commune de mes deux films, de La Liberté et La Détention, c'est que je veux bien, empiriquement, qu'on essaye de se poser la question de est-ce que la prison peut être meilleure, puisque... Voilà, à Casabianca, dans La Liberté, on allait dans une prison qui était très différente de toutes les autres et qui semblait porter une espèce d'utopie de fonctionnement. Bon, et c'était un échec. Pourquoi ? Bah, parce que c'était une prison. Quand bien même elle est la plus confortable du monde, bah, c'est un échec. Et là, la question est, est-ce qu'on pourrait inventer une meilleure prison ? Est-ce qu'il y a des manières de faire pour que la prison se passe bien ? Eh ben non, et même avec les meilleures intentions du monde, et même avec les meilleurs formateurs qui sont tout à fait pertinents et qui savent de quoi ils parlent, bah même là, ça ne fonctionne pas. Donc peut-être que le problème, c'est la prison, quoi, au final, une fois qu'on a essayé ces choses-là. Moi, ça y est, je crois que je suis au bout de mes expérimentations à moi. Empiriquement, il me semble que la prison est un échec.
Écoutez, merci beaucoup, Guillaume, pour cet entretien. Une dernière petite question qu'on a l'habitude de poser, c'est, bon, vous venez présenter votre film à Cannes, donc vous n'avez pas forcément beaucoup, beaucoup de temps, j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres films, quand même, qui vous donnent envie, que vous aimeriez voir pendant ce festival ?
Ah, ici, ouais, que ici. Je voudrais voir au festival. J'aimerais beaucoup voir Dans la gueule de l'ogre. J'ai pas eu l'occasion, parce que mon agenda ne collait pas, mais j'en ai très, très envie. Et on m'a dit beaucoup de bien du film d'Arthur Harari, mais ça je le verrai quand il sortira en salle tranquillement. Et bon, bah là j'entends du bien de Hope, ça a l'air plutôt amusant. Ouais. Voilà, pour avoir une réponse un peu avec des choses très différentes les unes des autres.
Ah oui, c'est ça. Bah, c'est bien, c'est le festival pour moi. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas.
Merci.
Et puis nous, on se retrouve pour bientôt pour un prochain épisode d'À l'ombre du festival. Merci encore.